Toutes les religions se valent-elles, sauf la mienne? Bon, alors j'espère que vous êtes sensible à la malice du propos. Et, comment dire, chaque siècle a des défis à relever et on convient d'ordinaire que la tâche d'une autre, c'est d'édifier une civilisation planétaire. Une civilisation planétaire qui se doit de reposer sur des valeurs universelles. D'une part, toutes les valeurs liées à la science, à la pensée rationnelle, au progrès technique et économique. Et d'autre part, un certain nombre de valeurs de droit, les droits de l'homme par exemple, et la démocratie. Donc d'un côté, tout ce qui est de l'ordre de la science, et de l'autre, tout ce qui est de l'ordre de la liberté et des pratiques démocratiques. Et dans cette perspective de mondialisation, nous sommes invités à dépasser nos préjugés ethnocentriques. Les préjugés ethnocentriques, ce sont les préjugés qu'on voit illustrés dans Astérix en Hispanie par le petit garçon espagnol qui dit « J'habite le plus beau pays du monde, dans le plus beau village du monde et mon papa est l'homme le plus fort du monde ». Voilà. Donc nous sommes tous assez spontanément habités de préjugés ethnocentriques, donc on peut discuter de leur force. Bon, il est évident que si vous êtes lyonnais et que vous êtes persuadé que l'équipe de l'Olympique lyonnais est la plus sympathique du monde, c'est votre droit. C'est votre droit de penser qu'elle est la plus forte du monde. Bon, vous aurez du mal à en convaincre des Stéphanois, ni non plus des Marseillais. Bon. Mais instinctivement, nous sommes tous plus ou moins marqués par des préjugés ethnocentriques. Et dès lors, nous sommes également invités à lutter contre ces préjugés, à lutter contre cette espèce d'inclination naturelle qui fait que nous avons tendance à surestimer ce qui est nôtre parce que cela est nôtre. Dès lors, quelle peut être la place des diverses religions dans un tel monde, puisque les religions paraissent diverses et donc propres à des cultures particulières? On pourrait dire que dans un monde planétaire, dans une civilisation cosmopolitique, cette civilisation va avoir certaines exigences. Elle va demander aux diverses religions, par exemple, de ne pas faire obstacle au développement de ce nouvel ordre mondial qui s'institue. Donc une religion, on lui demandera de ne pas être en contradiction flagrante avec la science. On lui demandera de ne pas être fondamentaliste, de ne pas affirmer que Darwin a tort sous prétexte que ce qu'affirme Darwin est en contradiction avec la vision que les Hébreux avaient de l'origine de l'homme il y a 6000 ans. Et on demandera à ces religions d'être respectueuses des aspects politiques de ce nouvel ordre mondial. On leur demandera de ne pas remettre en question fondamentalement les principes de la démocratie et des droits de l'homme. De même, on demandera aux diverses religions, dans cette perspective de civilisation cosmopolitique, on leur demandera de ne pas être exclusives. De ne pas être exclusives, c'est-à-dire de ne pas condamner absolument les autres religions. Parce qu'il faut être capable d'assurer une paix universelle, et qu'une des conditions de la paix universelle, c'est que les personnes qui ont des convictions radicalement différentes en matière de religion soient capables de coexister avec d'autres, avec celles qui ne partagent pas leur foi. D'où le sentiment assez légitime que chaque religion, pour coexister pacifiquement avec les autres, doit prendre conscience de sa particularité et ne pas exiger des autres religions qu'elles se soumettent à elles, ou ne pas non plus prétendre éliminer de la surface de la Terre, ces autres religions. Et donc, notre nouvel ordre mondial, notre civilisation cosmopolitique, s'accommoderait assez bien de religions qui auraient une sorte de cahier des charges à respecter. Ce cahier des charges consistant tout d'abord à apporter un supplément d'âme dans une... On sait que la science, la technique, c'est parfois un peu aride, un peu austère. La démocratie, c'est bien pour vivre sur Terre, mais enfin, ça ne donne aucun espoir pour après la mort. Donc, apporter un supplément d'âme. Ça, c'est ce qu'on attend des religions. mais on va leur demander également de ne pas nuire à la démocratie, à la science, pas trop au développement économique, accepter la coexistence avec les autres religions, et du coup, on va également avoir une autre demande, on va leur demander d'abandonner toute prétention à affirmer une vérité exclusive, puisqu'il faut que les autres religions aient également droit de cité. Et à l'opposé de ce type de religion, se profile le spectre de ce que seraient des religions indésirables. Les religions indésirables, dans cette perspective, ce seraient des religions qui prétendent affirmer une vérité exclusive. Nous seuls sommes dans le vrai, tous les autres sont dans l'erreur. Les autres, une religion détestable serait une religion qui refuse la coexistence pacifique avec les autres religions. Alors sous sa forme la pire, ce serait la forme armée, hein, la violence. Donc ça, c'est inacceptable. Et à juste titre, hein, je ne fais pas qu'ironiser. Hein. Il y a des choses vraies dans ce que je dis. Il y a des choses que j'ai critiquées, mais il y a des choses vraies. Je ne préconise pas la violence. On va également demander la coexistence pacifique avec les autres religions sur un autre plan. Alors là, c'est pas forcément de l'ordre de la violence, mais de l'ordre, disons, d'une sorte de courtoisie qui consiste à accepter qu'il y ait une sorte de concurrence des religions sur un marché libre des religions où elles seraient en concurrence les unes avec les autres. C'est un peu comme ça que se présente le paysage de la religion aux États-Unis. Vous voyez, vous avez plusieurs entreprises religieuses, chacune vend ses productions, et vous avez un marché de consommateurs de religion qui choisissent les articles qui conviennent le mieux à la vie qu'ils veulent mener. Donc ça ne veut pas dire que là, tout le monde a raison, cela veut dire que dans cette perspective, les religions sont invitées à renoncer à la violence, mais pour en quelque sorte se développer sur le modèle de la libre concurrence commerciale. Et là, donc, c'est ce qu'on demanderait aux religions. Donc, une religion qui refuserait ce principe de libre concurrence serait inacceptable, donc toujours notre perspective de préservation d'un nouvel ordre mondial et d'une civilisation cosmopolitique. Et enfin, on refusera toute religion qui s'opposerait au principe même de ce cosmopolitisme que je vous ai désigné, c'est-à-dire qui a l'idée que les hommes sur Terre puissent vivre pacifiquement, dans une société fondée sur, d'un côté, le savoir scientifique, le progrès technologique, le développement économique, et de l'autre, la reconnaissance des droits de l'homme et de la démocratie. Bon. Alors, sous cet enjeu politique et civilisationnel se cache ce qui accompagne ce projet civilisationnel que je viens de vous dessiner, où les religions ont leur place, d'accord ? Ce qui va l'accompagner, c'est une sorte d'exigence éthique qui en est, le principe, au sens où Montesquieu dit que le principe de la monarchie, c'est l'honneur, le principe de la République, c'est la vertu et l'amour de l'égalité, vous voyez ? Ce qui est le principe ici, c'est le refus de l'ethnocentrisme, le refus des idées étroites, le refus de se donner a priori raison en fonction des racines qui sont les nôtres. Et l'homme moderne, c'est l'homme ouvert, l'homme qui est ouvert à la contradiction, l'homme qui accepte d'entrer en dialogue avec l'étranger, avec celui qui est venu d'ailleurs, aussi bien pour opérer des transactions commerciales que, par exemple, pour ouvrir une discussion philosophique. Donc, une invitation à l'ouverture, et l'ouverture, ça commence par la critique de ses propres préjugés ethnocentriques. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître qu'actuellement, l'Atlético de Madrid est beaucoup plus fort que l'Olympique Lyonnais. Voilà. Mais vous voyez, j'ai fait un grand pas vers l'honnêteté intellectuelle. Bon. Je chouchouterai quand même l'Olympique Lyonnais, personnellement. Alors nous allons voir que face à cette proposition qui est séduisante, hein, qui est la proposition de la modernité, l'Église donc accepte la science, la démocratie, etc. Mais qu'il y a un point où l'Église catholique ne cédera jamais, c'est sur sa prétention à enseigner la vérité, et la vérité absolue. Et une vérité qui, nous allons voir en quel terme, a tout de même un caractère exclusif. Donc il y a un point, et l'Église catholique ne cédera jamais là-dessus, où elle ne rentre pas tout à fait dans le cahier des charges, c'est qu'elle prétend dire quelque chose de vrai, d'absolument vrai, et qui fait que, à ses yeux, aucune autre religion ne peut prétendre enseigner le vrai au sens où l'Église catholique prétend l'enseigner. Vous voyez ? Donc là, ça départ un peu avec le cahier des charges. Voilà. Alors la question que nous allons poser, c'est est-ce que en soutenant cela, l'Église catholique ne tombe pas dans les travers du préjugé ethnocentrique ? Et est-ce que en cédant à ce préjugé, elle ne trahirait pas, par contre, dévoilerait pas au fond qu'elle est incompatible à certains égards avec le cosmopolitisme contemporain. Parce qu'il n'y a pas là quelque chose qui montre une sorte d'inadéquation entre le catholicisme et, je dirais, la civilisation moderne. Bon. Voilà. Alors, est-ce que, lorsque le catholicisme prétend être dans le vrai, au fond, il cède à cette illusion et par là, il montre, il trahit en quelque sorte qu'il a conservé quelque chose d'incompatible avec la modernité. Bien. Alors, pour traiter cette question, il faut partir tout d'abord d'une analyse de ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Voilà. Il faut partir d'une analyse du cosmopolitisme, c'est-à-dire de cette aspiration à l'universel qui nous invite à considérer que il y a une cité universelle, en droit, constituée de tous les hommes, où tous les hommes ont une égale dignité. Et cette égale dignité de tous les hommes est au fondement de leurs droits imprescriptibles. Voilà ce que j'appelle le cosmopolitisme. Donc l'idée que tous les hommes peuvent se reconnaître dans des valeurs universelles qui affirment leur égale dignité et fondent leur droit naturel imprescriptible. Voilà. Eh bien, ce cosmopolitisme, on peut lui trouver au moins trois sources, trois origines possibles, théoriques. Pour un certain nombre d'auteurs, ce cosmopolitisme a une origine religieuse et mystique. C'est l'idée qu'on trouverait, par exemple, chez Bergson. Et cette origine religieuse et cosmopolitique, cette origine religieuse du cosmopolitique, pardon, on la trouve précisément dans la foi chrétienne. C'est la foi chrétienne qui propose la première, une religion universelle. Alors certes, elle a été précédée par le prophétisme hébreu, mais justement, le christianisme s'inscrit dans la continuité du prophétisme hébreu. Donc dans la foi chrétienne, il y a l'idée que tous les hommes ont été créés par le même Dieu et que tous les hommes, bien qu'ils aient été séparés de Dieu par l'histoire, par le péché, etc., sont appelés à être sauvés et que le Fils de Dieu a donné sa vie pour le salut de tous les hommes. Donc le christianisme, le premier, a affirmé que la vie de chaque homme avait une valeur infinie. Elle a une valeur infinie aux yeux de Dieu, puisque chaque homme est une créature de Dieu, créée à son image, appelée à lui ressembler, et que ce Dieu qu'il a créé s'est fait homme, a donné sa vie pour justement l'arracher au péché et le ramener à lui. Donc on a ici, si vous voulez, une source religieuse très profonde de cette idée que tous les hommes ont une égale dignité, ont des droits imprescriptibles, et que tous les hommes sont appelés à former une vaste famille unifiée. Et donc assez paradoxal que de nos jours, le christianisme, lorsqu'il prétend affirmer la vérité, se voit reprocher de sombrer dans un ethnocentrisme alors qu'il est peut-être lui-même à l'origine de ce cosmopolitisme. Donc je disais qu'il y avait trois sources du cosmopolitisme, car il y en a deux autres. Et c'est peut-être à cause de ces deux autres que nous sommes invités à regarder avec défiance la prétention du christianisme à énoncer une vérité universelle. La deuxième source du cosmopolitisme, elle est philosophique et scientifique. Elle est philosophique au sens où, d'ailleurs, la philosophie est à l'origine de la science. Elle est liée au rationalisme, à la conviction que les hommes, tous les hommes, ont la capacité critique, la capacité de penser, d'examiner les idées qui leur sont soumises, de manière, à partir de là, à discerner le vrai du faux. Ce pouvoir de la raison, qui est un pouvoir philosophique, peut ensuite, selon diverses méthodes qui vont être élaborées au fil des siècles, permettre de construire des sciences objectives, qui nous instruisent des structures de l'esprit humain, tout d'abord, comme la logique et les mathématiques, des sciences expérimentales, la physique, la biologie, etc., et même des sciences humaines. En tout cas, il y a l'idée que l'homme, par sa raison, est capable de découvrir le vrai au terme d'un examen critique, et cet examen critique, au passage, oblige à remettre en question les opinions, les opinions spontanées que nous formons sans passer par le détour de cet examen critique, de ce travail de remise en question, puis de construction d'une démonstration, et également les croyances en tant que les croyances sont l'héritage d'une tradition. Autrement dit, la philosophie, comme la science, développe un esprit de remise en question qui nous invite du même coup à nous méfier de ce qu'il y a de traditionnel dans l'organisation des sociétés, puisqu'une tradition est héritage, est transmission de croyances. Et cette tradition philosophique et scientifique, rationaliste, nous invite donc également tout particulièrement à nous méfier de la religion en tant qu'elle ne serait pas de l'ordre elle-même du savoir, mais du croire. Il y a donc ici un deuxième universalisme qui peut entrer en concurrence avec l'universalisme chrétien et qui va se présenter comme un rival de l'universalisme chrétien, en particulier en Europe à partir de l'ère des Lumières. Donc on pourrait, contre mon universalisme d'origine chrétienne, mon cosmopolitisme d'origine chrétienne, on pourrait justement dire que le christianisme a fait son temps, qu'il a joué un rôle historique important dans la prise de conscience d'une universalité humaine, mais que désormais, c'est au sein de la pensée philosophique et scientifique, rationaliste, que doit se développer la prise de conscience de la vérité universelle. Et enfin, il y a une troisième source au cosmopolitisme qu'il ne faut pas négliger, c'est le commerce. C'est le commerce, et je ne dis pas ça par ironie, hein, c'est le doux commerce dont parlait Montesquieu, le doux commerce dont parle également Benjamin Constant. C'est le commerce qui oblige les hommes à entrer en contact avec l'étranger avec la conviction qu'on a plus à gagner à échanger ce que l'on a produit plutôt qu'à se faire la guerre. Il y a toute une mythologie du doux commerce qu'on trouve par exemple exposée par Benjamin Constant, mais qui vient au départ de Montesquieu, où les hommes primitivement essayaient de se procurer ce qui leur était nécessaire par la guerre. Les premières sociétés seraient des sociétés militaires, et on se glorifiait de faire des rapines, on se glorifiait d'aller piller l'ennemi, tous les autres peuples étant ennemis par définition, jusqu'au moment où certains peuples découvrent que plutôt que de voler, il est bien plus rentable de faire la paix avec son voisin, de se spécialiser chacun dans la production de certains produits, et ensuite de les échanger. Et au fond, le commerce, c'est le pari que le commerce pacifie le monde. C'est le pari qui a été fait une première fois au sein de l'Europe avec la fondation, avant la communauté européenne, de la fondation de la CECA, hein, la communauté européenne du charbon et de l'acier. À partir du moment où l'Allemagne et la France produisent le charbon et leur acier ensemble, elles ne peuvent plus développer chacune de son côté des armes de guerre, puisque les deux nations auront besoin mutuellement l'une de l'autre, auront un besoin mutuel l'une de l'autre pour développer une industrie de l'armement. Bon, et de même, après, donc, on construit l'Union européenne, on va construire une mondialisation des transactions commerciales et financières, et de là devrait résulter, dans cette optique, un monde pacifié. Un monde pacifié sur la base de quelque chose qui n'est pas forcément d'ordre philosophique ni scientifique, mais tout simplement sur la base d'un calcul d'intérêt pragmatique. Il y a plus à gagner à commercer qu'à se faire la guerre. Surtout quand se faire la guerre, ça veut dire employer des bombes atomiques qui, pour le coup, risquent de détruire la planète entière. Donc, nous avons trois sources du cosmopolitisme et j'aimerais donc aborder la question en, répondant au défi du cosmopolitisme à travers l'examen de ce que ces trois sources nous amènent à penser. Alors, je vais aborder donc la question des rapports entre la vérité prétendue du catholicisme et le cosmopolitisme. Tout d'abord, je vais l'aborder sous l'angle de l'hypothèse que l'essence du cosmopolitisme vient du commerce. Voilà. Vient du commerce. Quand on voit ainsi la civilisation contemporaine, on peut être tenté de dire que dans un esprit de paix, de bonne entente, il convient de nier l'existence de différences doctrinales sérieuses entre les religions. Hein, c'est ce qu'on fait quand on est poli à un dîner de famille où on sait que les gens n'ont pas les mêmes opinions. On évite les sujets qui fâchent. On ne parle ni politique, ni sexe, ni religion. On se demande ce qui reste. Mais voilà, on évite les sujets qui fâchent. Et éviter les sujets qui fâchent peut ensuite inviter à donc se complaire dans un rapport, je dirais, un peu d'amateurisme à l'égard de la question religieuse. Tout d'abord, l'éclectisme. On va se dire qu'au fond, on peut piocher un peu dans toutes les religions ce qui nous plaît, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, le problème de l'éclectisme, ce que les sociologues aujourd'hui appellent le bricolage théologique, c'est que ça revient à ne prendre au sérieux aucune religion. C'est-à-dire, vous croyez faire plaisir à tout le monde en mettant ensemble Bouddha, Jésus, Mahomet sur le même autel, et en fait, vous aurez renié toutes ces religions. Donc l'éclectisme, au fond, ça revient à nier la valeur de toutes les religions, alors qu'on voudrait leur faire plaisir à toutes. C'est pas une très bonne stratégie. Alors, il y a un peu plus subtil, c'est ce que j'appellerais le syncrétisme. Alors, syncrétisme est un peu plus sérieux. Il consiste à faire le pari qu'au fond, toutes les religions disent la même chose. Alors, en surface, elles seraient en désaccord, mais si l'on creuse davantage, elles disent toutes la même chose. C'est bien commode de penser ça, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment lieu de se disputer, chacun est renvoyé à sa propre religion, et du même coup, la question de la vérité des religions se pose uniquement dans chaque religion, je vais approfondir ma religion, et à la fin, je trouverai la même chose que mon voisin qui est dans sa propre religion. C'est pas forcément... je voudrais pas trop ironiser avec ça. Parce que il peut y avoir une intuition assez intéressante dans tout cela. Hein. Ne dit-on pas, les grands esprits se rencontrent. Bon. Maintenant, là aussi, je pense que c'est assez illusoire. C'est assez illusoire. Et quelqu'un l'a dit bien mieux que moi, donc je vais lire son texte. Voilà. C'est Gilbert Chesterton, dans un ouvrage merveilleux qui s'appelle Orthodoxie, qui est une exposition personnelle par Chesterton des grandes vérités de la foi chrétienne telles qu'il les a redécouvertes. Voilà. Les hommes d'avant-garde ne semblent jamais plus à l'aise devant de vastes auditoires que lorsqu'ils affirment des faits contraires à la vérité. Ce sont réellement nos truismes qui passent pour faux. En voulez-vous un exemple ? Dans les sociétés éthiques et les assemblées religieuses, une petite phrase toute confite de libéralisme facile revient sans cesse. Les religions de la terre diffèrent par les rites et par les formes, mais elles se ressemblent par ce qu'elles enseignent. C'est faux, dit Chesterton. C'est le contraire des faits. Les religions de la terre ne diffèrent pas tellement par les rites et par les formes. Elles diffèrent grandement par ce qu'elles enseignent. Vous voyez, donc, la thèse de Chesterton, ici, elle consiste à épingler ce qui est en train de devenir un lieu commun de la modernité. Au fond, toutes les religions disent la même chose dans le fond et elles diffèrent par les rites. Et il dit, c'est le contraire qui est vrai, et il va vous le démontrer. Et il va vous le démontrer par deux analogies. Deux analogies. Une première analogie avec le fonctionnement du journalisme et des journaux. Professer le contraire reviendrait à dire « Ne vous laissez pas induire en erreur par le fait que le Church Times et le Free Thinker sont apparemment très différents. » Donc Church Times, le temps de l'Église, on peut imaginer que c'est un journal religieux. Le Free Thinker, le libre penseur, on peut penser que c'est un journal athée et anticlérical. Donc, ce que remet en question Chesterton, c'est donc ne vous laissez pas induire en erreur par le fait que le Church Times et le Free Thinker sont apparemment très différents, que l'un est imprimé sur le vélin, l'autre gravé sur le marbre, que l'un est triangulaire, l'autre octogonal. Lisez-le et vous verrez qu'ils disent la même chose. La vérité, nous dit Chesterton, est naturellement qu'ils se ressemblent en tout, mais ne disent pas la même chose. Deuxième comparaison. Un agent de change athée de Surbiton ressemble exactement à un agent de change swedenborgien de Wimbledon. Swedenborg, c'est donc un mystique suédois du XVIIIe siècle. Donc vous pouvez tourner autour d'eux plusieurs fois et les soumettre à l'examen le plus personnel et le plus insultant sans voir quoi que ce soit de swedenborgien dans le chapeau ni quoi que ce soit de particulièrement athée dans le parapluie. En leurs âmes seules réside la différence. Donc là aussi, ce qui fait la différence entre deux agents de change, ce n'est pas leur manière de s'habiller, c'est ce qu'ils croient en profondeur, en eux-mêmes. La vérité est bien que la difficulté de tous les credos de la terre n'est pas en la piètre maxime qui veut qu'ils s'accordent dans leur contenu, mais diffèrent dans leur mécanisme. Presque chaque grande religion sur terre fonctionne avec les mêmes méthodes extérieures. Prêtres, textes sacrés, autels, congrégations, fêtes particulières. Elles s'accordent sur le mode d'enseignement. Ce sur quoi elles diffèrent, c'est sur le contenu de cet enseignement. De même que les optimistes païens et les pessimistes orientaux veulent chacun avoir des temples, de même les libéraux et les tories veulent avoir leurs journaux. Les credos qui existent pour s'entre-détruire ont des textes sacrés, tout comme les armées qui existent pour s'entre-détruire ont des fusils. Bien, assez réjouissant. Chesterton. Alors, c'est là qu'il faut comprendre le point important. Le point important, c'est donc toute religion où vous avez, au fond, un message à diffuser. Il y a un message. C'est pour ça que l'analogie avec les journaux est intéressante. Les journaux d'opinion, ils veulent faire passer des messages. Ils veulent, diffuser des idéologies. Si vous fondez un journal conservateur, c'est que vous voulez faire passer des idées conservatrices. Si vous fondez un journal libéral, c'est que vous voulez faire passer des idées libérales. Si vous fondez un journal social-démocrate, c'est que vous voulez faire passer des idées social-démocrates. Mais si vous voulez faire passer ce genre d'idées, vous allez être obligé d'adopter une même structure qu'un autre journal. Vous serez obligé d'avoir des journalistes, d'avoir des reporters, d'avoir un comité de rédaction, d'avoir une agence de publicité, etc., etc. Voilà. Donc tous les journaux vont avoir sensiblement les mêmes structures parce que ils ont des tâches analogues pour faire passer des messages différents. Et quand on regarde les religions, effectivement, il y a beaucoup de similitudes dans les structures. Parce que fondamentalement, le but d'une religion, c'est quoi? C'est d'inviter des personnes à mener un certain mode de vie en accord avec un certain nombre de croyances. Et donc, pour diffuser ces croyances, il va falloir, par exemple, des gens qui soient spécialistes de la question. Pour ensuite aider les gens à vivre selon ses croyances, il va falloir créer des instances de contrôle, une sorte de clergé, peu importe, quelque chose qui ressemble. Il peut y avoir des modalités très différentes. Mais partout, donc, on va trouver un certain nombre de structures en lien avec le fonctionnement même d'une religion. Maintenant, ça ne présume en rien de ce qui constitue le contenu de ces religions. Vous voyez ? Bien. Donc, qu'est-ce que nous avons appris par ce petit détour ? Ce que nous avons appris pour le moment, c'est qu'il faut se méfier de la notion de religion. La notion de religion, c'est une notion ambiguë. Et à la limite, c'est une notion qui est plus sociologique que théologique. Une religion, c'est d'abord une certaine forme de structure sociale. Une certaine forme de structure sociale en rapport avec une certaine vision du monde, avec un certain projet de vie. Et il se trouve que généralement, ce qu'on appelle religion, affirme que la finalité de la vie se situe en dehors de la vie terrestre. Mais on peut imaginer des religions qui n'ont pas d'autre objectif que d'organiser notre vie sur Terre. Ça existait au XXe siècle. Hein. On convient souvent, depuis Raymond Aron, de considérer que le communisme a été une religion séculière, une religion sans Dieu, mais qui avait le mode de fonctionnement d'une religion. Et si on remonte en arrière, on s'aperçoit que dans le judaïsme ancien, il y avait des mouvements, par exemple l'école sadducéenne, pour qui il n'y avait pas de vie après la mort. Et donc l'objectif de la religion, certes, c'était d'avoir des liens avec Dieu, mais c'était certainement pas de faire son salut pour une autre vie. C'était uniquement un objectif terrestre. Vous voyez ? Donc, ce qui fait qu'une religion est une religion, c'est d'abord cette structure sociale liée avec un certain message à faire passer pour vivre collectivement conformément à une certaine idée, à une certaine vision des choses. Voilà. Et du coup, dire que les religions disent la même chose, c'est passer à côté du sujet. Les religions ne disent pas la même chose. Elles proposent un certain mode d'existence collectif, conforme à une certaine sagesse, à une certaine idée, à une certaine révélation, peu importe ici l'origine du message. Je vais maintenant aborder la question à partir d'un deuxième angle d'attaque. C'est-à-dire, mon angle d'attaque, c'est l'idée que le cosmopolitisme aurait pour source la source philosophique rationaliste. Cette source rationnelle qui est, à l'origine et de la philosophie et de la science. Alors, dans cette perspective, il serait tentant de dire que la philosophie et la science vont dresser le cahier des charges de ce que doit être une religion pour être acceptable par la philosophie et la science. Elles vont dresser le cahier des charges. Et donc, voilà. La question est toutes les religions se valent-elles ? Et on va aborder la question toutes les religions se valent-elles à partir d'une philosophie qui va dire, voilà ce que doit être une religion pour valoir quelque chose. Et ensuite, on va examiner les diverses religions et on va voir si elles correspondent plus ou moins au cahier des charges dressé par la philosophie. Vous y êtes ? C'est ça mon raisonnement. Bon. Alors, c'est une chose qu'a faite déjà Emmanuel Kant en 1793, année à retenir, pas seulement pour cette raison, dans un ouvrage appelé « La religion dans les limites de la simple raison ». Le titre à lui-même est un programme. La religion dans les limites de la simple raison. C'est-à-dire que Kant, son propos, c'est de dire voilà ce qu'enseigne la raison philosophique. La raison philosophique nous enseigne, par exemple, certains critères pour distinguer le bien et le mal. Et une religion sera plus ou moins bonne selon qu'elle sera plus ou moins conforme aux exigences de la morale. D'une morale rationnelle, indépendante de la religion. Vous voyez ? Donc ce que Kant propose, c'est que ce soit pas la religion qui nous dise, par exemple, ce que sont les valeurs. C'est la philosophie qui nous livre des valeurs. D'accord ? Et après, c'est la philosophie qui, disposant de ces valeurs, évalue les diverses religions. C'est bon ? Bien. Autrement dit, Kant lance une manière de raisonner qui court le risque, à la longue, de réduire la religion à la morale, et puis plus tard, de réduire la morale à la bienfaisance. Bon, ça, c'est réservé à notre époque où la morale s'est trouvée réduite à la bienfaisance, hein, depuis, je dirais, la révolution sexuelle, puis Coluche. Il n'y a plus de morale pour soi-même, il n'y a plus de morale que par rapport aux autres, et la morale se réduit à faire des actions de bienfaisance, mais il ne faut jamais rien prendre sur soi. Bon, alors, le problème du rationalisme philosophique, alors il y a différentes variantes du rationalisme philosophique, hein, je vous les passe, hein, on pourrait citer Condorcet, on pourrait citer Auguste Comte, on pourrait citer Hegel, on pourrait citer Karl Marx, mais tous résonnent de la même manière. Voilà. On élabore une philosophie qui sera l'expression de la pensée rationnelle, et ensuite, à partir de cette philosophie qui dit la vérité absolue philosophiquement, on va évaluer les religions, et les religions seront plus ou moins nocives selon qu'elles seront plus ou moins éloignées de notre philosophie. Bon. J'aime bien cette méthode, à vrai dire. Mais bon, parce qu'elle donne le beau rôle aux philosophes. Alors, il y a quand même une objection qu'on pourrait formuler, que j'emprunterai à Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Alors, Claude Lévi-Strauss, dans Race et Histoire, ne parle pas de religion, il parle de culture. Mais le but de Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire, qui est un écrit commandé par l'UNESCO au début des années 50, Claude Lévi-Strauss, dans Race et Histoire, veut mettre en garde les Occidentaux contre leur propre rationalisme. Ce qu'il veut montrer, c'est que, au nom de l'idée de raison, au nom du progrès de la civilisation, on a détruit des cultures. On a détruit des cultures traditionnelles. On a réduit au malheur, à la souffrance, des indigènes. On a imposé des modèles de vie à des personnes qui ont été complètement arrachées à leurs racines et qui ont fini alcooliques, malheureux, mais parfois bénéficiaires de la sécurité sociale. Bon, mais voyez-vous, c'est parfois poignant de voir que, je sais pas, vous avez, enfin, alors je sais pas si cette statistique est en faveur, mais enfin il y a quelques années, une décennie, ça ferait peut-être trop, j'avais lu, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié, que le peuple où il y avait le plus fort taux de suicide au monde, c'était les Inuits au Québec. Il y avait des taux de suicide monstrueux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, autrefois, vivaient certes à la rude, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui, en quelques décennies, ont perdu tout leur monde, et même tout, sans toute considération pour eux-mêmes. Et leur seul sort, c'est de devenir des, comment dire, bénéficiaires de prestations sociales. Bon. Donc, Claude Lévi-Strauss, vous voyez, est habité par cette préoccupation. Au nom de la raison, on détruit des cultures. Parce qu'une culture n'a pas une vision scientifique du monde, elle ne mériterait pas considération. C'est ça que veut, comment dire, combattre Lévi-Strauss. Parce qu'une culture n'est pas conforme, ne préconise pas un mode de vie conforme au mode de vie démocratique et individualiste de l'homme occidental moderne, elle serait sans valeur. C'est là aussi ce que combat Claude Lévi-Strauss. Alors Lévi-Strauss, je vous dis, ne parle pas de religion mais de culture. Mais son discours est quand même transposable. Son discours critique à l'égard du rationalisme philosophique classique, du rationalisme philosophique de Kant et des Lumières. Ce que dit Lévi-Strauss, c'est qu'au fond, chaque culture est porteuse d'un système de valeurs qui lui est propre. Chaque culture est porteuse de son propre système de valeurs. Et le rationaliste présuppose que son propre système de valeurs est habilité à juger les autres. Il se situe lui-même en surplomb. Voyez ? Et du coup, il ne voit pas, il rejette dans l'irrationnel ce qu'il ne comprend pas. Ce qu'il ne comprend pas, c'est la culture des autres. Comme il ne la comprend pas, il la considère comme irrationnelle, donc sans valeur. Et du coup, loin que la raison du rationaliste l'aide à comprendre les autres, elle le détourne de la tâche de le comprendre, elle lui permet de s'autoriser à imposer le mode d'existence conforme à sa propre civilisation. On va coloniser. On va envoyer des instituteurs, mais aussi envoyer des administrateurs et faire que des indigènes d'Afrique noire deviennent de parfaits bons soldats pour la France. Et on trouvera que c'est bien, parce que on le fait au nom de quoi? Au nom de la science, au nom des Lumières, au nom de la démocratie. Mais l'idée de raison, ici, a servi essentiellement, dit Lévi-Strauss, au début des années 50, à justifier un rapport de domination, tout simplement parce que ce que nous ne comprenions pas, nous l'avons assimilé à de l'irrationnel. Or, et c'est là le point important, pour Lévi-Strauss, il y a justement du rationnel en tout homme. C'est là le paradoxe. C'est-à-dire que les rationalistes disent que l'idée de raison est universelle, mais l'idée de raison, comme par hasard, ne se serait développée que dans leur propre civilisation occidentale. Les autres n'auraient jamais réfléchi. Alors c'est quand même paradoxal de dire à la fois que la raison est présente en tout homme, mais qu'il a fallu attendre l'arrivée des occidentaux pour que les hommes se mettent à penser. Et Lévi-Strauss nous dit, mais le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, et nous aussi, occidentaux, nous avons été barbares en considérant que ceux qui n'étaient pas de notre culture étaient des barbares. Nous avons commis l'erreur qui consiste à croire que des hommes ne possèdent pas de langue sous prétexte qu'ils ne parlent pas une langue comme la nôtre. C'est ça, le terme barbare viendrait de ce que quand on entend une langue qu'on ne comprend pas, une langue étrangère qu'on n'a jamais entendue, on a l'impression d'entendre un bruissement barbare. Voilà. Du borboring. Bon. Et face aux autres cultures, nous avons le sentiment de voir quelque chose d'irrationnel parce que ça ne correspond pas à notre manière propre d'utiliser notre raison. C'est un peu comme si nous disions « il ne parle pas puisqu'il ne parle pas notre langue ». Mais justement, il parle une langue mais différente de la nôtre. Donc le but de Lévi-Strauss, c'est de nous dire « mais attention, il y a divers systèmes de valeurs qui sont les cultures dans leur diversité et que pour comprendre une culture, il faut d'abord entrer dans son système de valeurs, dans sa propre vision du monde. Après, on pourra peut-être juger. » Et nous dit Lévi-Strauss, si on commence à rentrer dans son système de valeurs, on s'aperçoit que, eh bien, ça n'a pas de sens d'aller chercher les valeurs d'un autre système pour juger ce système-là. Il faut partir de sa propre vision du monde. Je vous explique. Dans la culture occidentale moderne, on trouve tout à fait normal que les hommes cherchent à mener une vie plus confortable. Vous voyez, hein, chaque génération essaie d'avoir une vie plus confortable que la précédente. Une vie plus confortable grâce au développement technique. Vous voyez? Mais pour assurer ce développement technique, nous sommes prêts à faire des sacrifices considérables en termes, par exemple, de quantité de travail, d'embrigadement des populations dans tout un système qui fait qu'on scolarise les enfants quand ils sont petits, puis ensuite on entre dans des entreprises, etc., etc. On devient entièrement dépendant d'un système de travail productif qui nous met sous pression en permanence. Tout ça pour nous permettre ensuite de produire pour utiliser des outils technologiques, par exemple on regarde la télé soir, etc. Alors que dans d'autres cultures où on n'attache aucune importance à la technologie, à la technique, eh bien, on trouvera beaucoup plus intéressante une vie où on travaille beaucoup moins. Lévi-Strauss parle de sociétés où on travaille 2-3 heures par jour et où on passe le reste du temps à jouer, profiter du soleil. Voilà, on chasse un petit peu le matin, on répare les cases, on vit pauvrement, mais une vie agréable, voilà. Alors ça, c'est contrepartie. Hein, on n'a pas la médecine la nôtre. Tant mieux, parce que comme ça, on peut faire des enfants en grand nombre, puisque la moitié meurt en bas âge. Bon, il n'y a pas besoin de se restreindre. Voilà. Quand la santé va trop bien, on est obligé quand même d'éliminer des enfants en bas âge, parce qu'il y aura des problèmes démographiques. Bon. Mais la vie d'un chasseur-cueilleur, vous voyez, finalement, c'est celle qu'on essaie de retrouver, nous, occidentaux modernes, quand on va au club Méditerranée. Cela coulait douce au soleil dans les paillotes. Voilà. Bon. Vous voyez, donc, bon. Voilà, alors. Vous voyez, les cultures ont mis en avant diverses valeurs, divers systèmes de valeurs, Et c'est peut-être présomptueux de dire que telle culture vaut mieux qu'une autre. Parce que quand nous disons que l'une vaut mieux que l'autre, nous utilisons notre propre système de valeurs. Voilà. Alors, qu'avons-nous appris là de notre mise en avant de ce rationalisme philosophique que nous avons combattu ensuite avec Lévi-Strauss ? Qu'est-ce qu'on avait appris là ? Je fais un petit bilan provisoire. Il faut prendre garde à l'ethnocentrisme jusque dans l'exercice de la philosophie. Ça, c'est la leçon de Lévi-Strauss. C'est-à-dire que même le philosophe qui se croit rationnel, lui-même peut tomber dans des préjugés ethnocentriques, ou l'analogue de préjugés ethnocentriques. Il peut croire parler au nom de tous les hommes alors qu'il ne parle qu'au nom d'une toute petite classe sociale, celle, je dirais, des intellectuels pauvres, enfin pas très riches. Souvent le cas. Il y a aussi des intellectuels, parce que des philosophes riches, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais bon. Bon. Ils sont pas non plus très pauvres. Mais croire parler au nom de tous les hommes alors qu'on ne parle jamais qu'au nom, des fonctionnaires, enseignants du second degré, bon. Vous voyez? Donc là, il y a beaucoup de préjugés ethnocentriques ou assimilables aux préjugés ethnocentriques qu'on trouve chez les philosophes. Bon. Donc là-dessus, il y a un soupçon qu'il faut garder envers soi-même. Mais, l'attitude de Lévi-Strauss, en dépit de ce qu'elle a de, merci, salutaire, a quand même ses limites. Elle a quand même ses limites parce que elle conduit à la fin à ce qu'on pourrait appeler les paradoxes du relativisme. C'est-à-dire que, si on dit que toutes les cultures ont leurs propres valeurs qu'on ne peut les juger qu'à partir d'elles-mêmes, il y a un moment où on finit par dire, mais au fond, il n'y a pas de valeur universelle. Il n'y a pas de valeur universelle. Et là, ça commence à être ennuyeux si on, parmi ces valeurs, on place la vérité, la notion de vérité. C'est un paradoxe que Platon a relevé dans l'Antiquité. Si vous dites qu'il n'y a pas de vérité universelle, vous allez être confronté à des paradoxes insoutenables. Si vous dites qu'il n'y a pas de vérité universelle, on va vous demander, alors est-ce que vous dire qu'il n'y a pas de vérité ? Alors s'il n'y a pas de vérité, ce que vous dites, c'est pas vrai. Vous voyez, c'est un paradoxe assez analogue à celui du menteur. Ou alors, si vous dites, non, mais il y a une vérité, mais disons que chacun a sa propre vérité, ça va aussi être compliqué à soutenir. Si vous dites que chacun a sa propre vérité, on va vous dire, mais alors, celui qui vous dit que ma propre vérité, c'est que tous les autres ont tort sauf moi. D'accord ? Celui-là, il est aussi dans le vrai. Donc, si vous dites, si vous dites qu'il n'y a pas de vérité universelle, vous êtes conduit à donner raison aussi à celui qui dit qu'il y a une vérité universelle absolument. Donc au fond, on est confronté à une impasse théorique dès qu'on essaie de relativiser la notion de vérité. Et voilà pourquoi je dirais que malgré les avertissements de Lévi-Strauss, il faut quand même garder en tête que on peut relativiser un certain nombre de systèmes de valeurs dans les cultures. Au fond, c'est vrai que c'est pas évident que la technique soit forcément faite pour le bonheur de l'humanité. Bon, moi, je milite pas trop ni pour le Club Med ni pour le retour à la nature, mais je comprends très bien qu'on y soit favorable. Vous voyez, et je respecte beaucoup ce genre d'attitude. Moi, je serais incapable de le vivre, même si je le croyais vrai. Donc, bon, mais je respecte. Et en revanche, ce qui me gêne, ce serait de dire que, justement, l'amour de la vérité, qui est quand même à la racine de la pensée rationnelle, l'amour de la vérité qui nous incite à confronter les idées pour essayer de faire la part du vrai et du faux, c'est pas tout à fait une valeur relativisable comme le reste. Voilà. Et du coup, on va se retrouver face à une sorte d'antinomie philosophique entre les modernes façon Kant qui disait qu'il y a une pensée rationnelle qui cherche la vérité, c'est à la mesure de cette vérité établie rationnellement qu'on va juger par exemple les religions, et des post-modernes façon Lévi-Strauss qui disent que tous nos systèmes de pensée sont propres à des cultures particulières et doivent être relativisés. Parce que dans les deux cas, on est dans des positions insatisfaisantes. Bon, alors je vais pas trop m'attarder parce que le temps risquerait de nous manquer. Donc c'est un vaste sujet qui a lui-même mériterait d'être traité à part. Disons que cette antinomie entre rationalisme moderne et je dirais relativisme postmoderne, qui est un peu vraiment un des grands problèmes de notre temps. Hein. Donc cette espèce d'antinomie vient de ce que les rationalistes modernes avaient une conception trop étroite du rationnel et trop large en même temps. C'est-à-dire que les rationalistes modernes avaient tendance à considérer comme essentiel à la raison certains modes de pensée qui ne sont pas purement et simplement rationnels. Ils avaient tendance à considérer, par exemple, que partout où il est question de magie, de surnaturel, de révélation, on est dans l'irrationnel. Et ça vient de ce qu'il assimilait le rationnel à un certain usage du rationnel qui, par exemple, chez Kant, était la rationalité technique ou la rationalité scientifique. C'est-à-dire que la rationalité scientifique, chez Kant, elle passe par une certaine représentation de l'espace et du temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait assez oiseux et un peu compliqué. Mais disons que cela conduisait Kant à considérer que la raison humaine permettait de prouver, antérieurement à toute expérience, les fondements de la physique telle que Newton l'avait conçue. Et on pourrait savoir avec certitude, à partir du seul pouvoir de la raison, que certaines choses sont possibles et d'autres sont impossibles. Par exemple, on pourrait savoir, à l'aide de la seule force de la raison, d'après Kant, que le temps s'écoule uniformément partout au même rythme. Vous voyez ? Ou on pourrait savoir, a priori, à l'aide du seul pouvoir de la raison, d'accord, que il est impossible que une particule de matière puisse aller d'un point à un autre en passant par deux trajectoires distinctes simultanément. Tout ça, c'est impossible. On peut le savoir a priori. C'est comme ça que raisonne un rationaliste du XVIIIe siècle. Sauf que les deux exemples que je viens de vous donner, le premier, que le temps s'écoulerait uniformément partout au même rythme, bah, ça a été réfuté par la mécanique relativiste d'Einstein. Et le deuxième, l'idée qu'une particule élémentaire peut aller d'un point à un autre en passant simultanément par deux trajectoires distinctes, c'est donc une propriété qu'on trouve établie dans la mécanique quantique. Donc ce que nous a appris justement l'évolution des sciences, c'est de nous méfier, voyez, d'une surdétermination de ce qui fait la pensée rationnelle. Il y a des choses qui nous paraissent impossibles, mais qui en fait sont possibles. D'ailleurs, elles sont réelles. C'est-à-dire que notre distinction du possible et de l'impossible, telle qu'on la trouve chez Kant, elle n'était pas purement rationnelle. Elle liait à la rationalité même d'autres éléments, certaines représentations de l'espace, certaines représentations du temps, etc., qui ne sont pas de l'ordre de la pure rationalité. Et ça nous invite à repenser de manière plus précise ce qu'est la raison, le rationnel. Voyez ? C'est-à-dire que le rationnel, c'est d'abord la non-contradiction, c'est la cohérence. C'est-à-dire que deux propositions contradictoires ne peuvent pas être vraies simultanément. Ça reste valide, je vous rassure. Voilà. Une même proposition et la négation de cette proposition ne peuvent pas être vraies simultanément. C'est l'une ou l'autre. Ou alors c'est que les deux sont fausses parce que mal formulées. Ou en tout cas, confuse. Bien. Donc, les rationalistes du XVIIIe siècle avaient une vision, surdéterminée du rationnel. Et c'est en raison de cette vision surdéterminée du rationnel qu'ils rejetaient dans l'irrationnel certaines croyances. Par exemple, la croyance au miracle. La croyance au miracle, si on pense cette fois la raison seulement en réduisant la raison à la raison proprement logique, c'est-à-dire la non-contradiction, la croyance au miracle, elle n'a rien d'incohérent. Si vous croyez en l'existence d'un Dieu créateur. Si vous croyez en l'existence d'un Dieu créateur, un Dieu qui a créé le monde à partir de rien, à plus forte raison, ce Dieu créateur qui a créé le monde à partir de rien, il est capable d'y faire des miracles dans ce monde. C'est à sa portée. Il a la puissance requise pour le faire. Donc si vous croyez à l'existence d'un Dieu créateur et à la possibilité des miracles, vous êtes cohérent. Donc vous n'êtes pas irrationnel. Si par ailleurs, vous ne croyez pas à l'existence d'un Dieu créateur, c'est tout à fait rationnel de ne pas croire non plus à la croyance au miracle. Vous voyez, l'irrationnel, c'est de croire simultanément à des idées contradictoires. Le rationnel, c'est de croire simultanément à des idées qui sont compatibles. Vous voyez? Et les rationalistes du 18e siècle, du 19e siècle, font des grosses erreurs logiques. Parce qu'ils pensent qu'on peut penser la distinction entre le rationnel et l'irrationnel à partir du contenu de ce que les gens pensent. Alors qu'il faut regarder le système dans lequel ils pensent dans sa totalité. Vous voyez? OK? Donc le problème derrière tout ça, c'est que les rationalistes du 18e siècle et du 19e siècle n'étaient pas assez rationalistes. Et du coup, c'est ça qui a mis le bazar, les postmodernes qui ont rejeté ce rationalisme ont cru rejeter tout le rationalisme. D'où, à la fin, leur relativisme qui nous conduit au paradoxe que nous connaissons bien. Donc à une impasse. Donc si on veut sortir de ce magma, il faut sortir par le haut. Il ne faut pas reprocher aux philosophes d'être trop rationalistes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ça. Il faut leur reprocher de ne pas l'avoir été assez. OK ? D'accord ? Bien. Et c'est par rapport à cette exigence de rationalité qu'on doit penser la question de la validité des religions. C'est-à-dire que les religions, la question religieuse, la valeur des religions, on va la penser par rapport à la question de la vérité, mais une vérité qu'on va penser à l'aide d'une raison, qui est la raison à la fois plus précise que celle des philosophes du XIXe siècle, la raison discursive, la raison logique, d'accord, mais en même temps plus ouverte à différents modes de pensée, précisément parce qu'elle est plus précisément déterminée, et en même temps plus ouverte à différents systèmes de pensée. Ça va? Bon. J'arrive à mon troisième axe de réflexion. Je vous ai dit, il y a trois sortes de cosmopolitisme. Rassurez-vous, ça paraît un peu disperté, mais à la fin, ça va se rassembler. Donc, je vais continuer mon raisonnement. Mon troisième angle d'attaque consiste à revenir à l'idée que ce qui est à l'origine, justement, du cosmopolitisme, c'est une inspiration religieuse et je dirais même mystique. Le christianisme, dès l'origine, a une dimension universelle. Dès l'origine. Et attention, cet universalisme chrétien n'est pas exactement l'universalisme philosophique, encore qu'il soit compatible avec lui. En tout cas, ce n'est pas l'universalisme du cosmopolitisme marchand. Pas parce qu'il serait méprisable, mais parce que ce n'est pas la même chose qu'on recherche. OK ? Jésus dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, je suis venu vous apporter l'épée. Ce que veut dire Jésus par là, c'est à cause de moi, on se disputera jusque dans les familles. Belle-mère contre belle-fille, enfin on remarque pour ça, il n'y avait pas besoin du Christ, mais voilà, il y aura, voilà, donc on va se disputer dans les familles. C'est-à-dire que le Christ est un signe de contradiction, et il y a une aspiration à la tranquillité, un peu hédoniste, un peu épicurienne, que le Christ est venu mettre en péril. Voyez ? Donc, chez le christianisme, il y a bien une possibilité de paix, mais ce n'est pas forcément cette paix un peu facile et tranquille que procure la jouissance, je dirais, bourgeoise, des avantages d'une société fondée sur le commerce. Le commerce, avec néanmoins tout ce que cela a de tout à fait louable. Je ne suis pas contre le commerce, hein, ni pour le retour à la nature, absolument. Et on peut aimer le commerce, même dans le retour à la nature, même si on fait moins de commerce. Bon. Alors, le christianisme donc n'a pas la même structure que ces cosmopolitismes marchands et même le cosmopolitisme philosophique. Pourquoi ? Parce que le cosmopolitisme chrétien, eh bien, il passe par la reconnaissance du caractère absolument singulier de l'unique médiateur qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que on ne peut pas accéder à l'universalité sans passer par une relation vécue, concrète, précise, sacramentelle, ça c'est un terme un peu technique, je suis désolé, avec la personne de Jésus-Christ ressuscité. Voyez ? Donc le christianisme, ça consiste pas à affirmer des valeurs un peu générales dans lesquelles tous les hommes se reconnaîtraient, parce qu'elles sont un peu générales. Le christianisme, il nous ouvre à l'universel, mais en désignant un individu singulier comme indispensable au salut de chacun. Et cet individu, c'est le Christ. Et il invite chaque personne à avoir un rapport personnel avec cet individu. Vous voyez ? Donc c'est ça l'originalité de l'universalisme chrétien, c'est qu'il passe par la médiation du rapport à une personnalité singulière, le Christ. Et, du même coup, il passe par la médiation avec ce qui est le corps du Christ, c'est-à-dire une organisation particulière, une communauté particulière, qui est une structure particulière, qui est enracinée dans une histoire, qui a ses rites propres, ses traditions propres, et qui a pour tâche de nous relier au Christ. Cette organisation particulière, c'est l'Église, avec sa dimension institutionnelle. Donc l'universalisme chrétien, il passe par les médiations du Christ et de l'Église. J'entends ici l'Église catholique. Catholique voulant dire universelle. Mais justement, ça fait marrer les gens qui ne sont pas catholiques, parce qu'ils trouvent que c'est quand même un truc un peu particulier. Voilà. Mais le sens de cette particularité, c'est de relier à la personne singulière du Christ. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, par exemple, le Christ il s'est entouré de 12 apôtres à qui il a confié une tâche, et ceux qu'on appelle les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc chaque chrétien, dans sa relation à son évêque, sait que par cette relation, il est dans une relation avec le Christ qui a institué le collège des apôtres et dont le collège des évêques est le successeur. Voyez ? Donc concrètement, avoir là une relation avec le Christ, ça ne veut pas forcément dire avoir des expériences mystiques particulières et monter au septième ciel. Avoir une relation personnelle avec le Christ, ça veut dire aussi avoir une relation qui se vit dans une dimension institutionnelle précise. Et non pas dans la négation de cette dimension institutionnelle. Et une dimension institutionnelle, ça veut dire historique, parce que les institutions, elles sont toutes intégrées à une histoire. Les institutions, elles ont été instituées. Vous voyez ? Bon, je vais continuer maintenant. Maintenant, je vous ai parlé, dit que donc la dimension universelle, elle se trouve par la médiation du Christ, dans le christianisme, mais ça, je voudrais dire autre chose de très important, et qui cette fois ne vient pas de la religion chrétienne. On peut, sans être chrétien, affirmer que le christianisme, la religion chrétienne, occupe une position tout à fait particulière parmi les autres religions. Il y a un penseur qui l'a dit récemment, mais il n'est pas le premier au fond, c'est Marcel Gauchet. Il dit « La religion chrétienne a la particularité d'être la religion de la sortie de la religion. » Alors les gens croient souvent que ça veut dire la religion chrétienne, ça veut dire que c'est une religion qui va commencer par détruire les autres religions, puis à la fin se détruire elle-même et laisser place à l'athéisme. Bon, il y a un peu de ça au moins dans une certaine lecture de Marcel Gauchet, mais c'est pas ça le plus intéressant. Ce que veut dire Marcel Gauchet, à la base, qui en tout cas est vrai dans sa pensée, enfin c'est moi qui en juge, donc c'est vrai. Bon, bien sûr, ne soyons pas ethnocentriques, mais donnons-nous raison quand même. Ce que dit Marcel Gauchet de profondément pertinent, c'est que la notion même de religion a été radicalement modifiée par le christianisme par rapport à ce que sont toutes les autres religions. C'est-à-dire que le christianisme, c'est une sorte de religion à l'envers. C'est-à-dire que vous pouvez faire une typologie des religions, mais vous allez buter sur le christianisme, ça rentre pas dans les cadres. Ça rentre pas dans les cadres. Parce que c'est une religion qui fonctionne à l'envers. Alors, j'ai photocopié pour vous des passages assez intéressants de Marcel Gauchet, où il dit que Jésus-Christ, dans le christianisme, c'est le Messie, mais c'est le Messie à l'envers. C'est le Messie attendu par les Juifs, mais c'est en fait un Messie à l'envers. Pourquoi ? Parce que le Messie, si vous voulez, Si vous voulez comprendre ce qu'était le Messie pour les Juifs, il faut revenir aux bandes dessinées des années 30 aux États-Unis avec l'invention de Superman et des super-héros. Parce que Superman et les super-héros ont été inventés par des auteurs juifs qui ont repris les récits messianiques, voilà, et ont créé une figure de ce qu'est le sauveur de l'humanité tel qu'on le voit spontanément quand on est un petit enfant juif. C'est de la littérature pour enfants, donc on ne fait pas dans la finesse et la subtilité. Hein. Les auteurs sérieux, ils feraient dans la finesse et la subtilité. Mais l'idée, c'est quand même, on attend un sauveur qui est juste, qui est droit, qui a toutes les qualités, qui va péter la gueule aux méchants et par là, ramener l'ordre et la justice sur le monde. C'est Superman, ou après, vous pouvez faire des variantes, hein, Batman, Spider-Man, etc., peu importe. Moi, j'aime bien. Hein. J'adore les westerns avec Jane Wayne. Hein. Mais le problème, c'est que le Christ des chrétiens, c'est exactement Superman à l'envers. C'est-à-dire qu'il va se révéler comme Messie dans son échec, dans une mort infamante, condamné par les propres dignitaires de sa religion. Condamné à un supplice qui est un supplice de malédiction. Maudit soit l'homme pendu au bois de l'arbre, l'arbre de la croix. Ça, c'est une malédiction du Deutéronome, c'est une malédiction de la Bible. Donc le Messie des chrétiens, c'est un Messie qui endosse une malédiction biblique. Ça la fout mal, quand même. Et ça a un sens chrétien. Bon, comme on est à la dernière conférence, je vais revenir à la première. Je dis, il y en a qui vont pas être contents, vous n'êtes pas là à la première. Vous n'aurez qu'à l'écouter sur Internet. Bon. Je fais ma propre publicité. Ne soyons pas ethnocentriques. Soyons juste égocentriques. Bon. Le Christ, si vous voulez, c'est celui qui va se révéler comme Dieu fait homme. Il va se révéler comme Dieu fait homme en subissant un supplice infamant qui le met tout en bas de l'humanité. Tout en bas de l'humanité. Pourquoi ? Parce que ce que le Christ vient offrir, c'est le pardon de Dieu. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué à la première conférence. Il y a un problème. Vous pouvez pardonner les péchés qu'on vous inflige. Dieu peut pardonner les péchés que nous lui infligeons. De même que moi, je peux pardonner les offenses qu'on me fait à moi. Par contre, moi, je n'ai pas le droit de pardonner les offenses qu'on a faites à un tiers. J'ai pas le droit. Je peux pas pardonner quelqu'un qui aurait tué un autre que moi. Si on me tue, je peux pardonner avant de mourir. Peut-être après, si ma religion ne m'a pas induit en erreur. Mais si on a tué quelqu'un d'autre, de quel droit est-ce que je pardonnerais le meurtrier ? Je peux pas. Pardon, il se fait pas n'importe comment. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous avons tous, c'est ça le mystère du péché, nous sommes tous imbriqués dans des solidarités de péché. J'ai certainement beaucoup de choses à reprocher à d'autres personnes, et il y a certainement beaucoup de gens qui ont des choses à me reprocher. Et en fait, toutes les relations humaines sont complètement prises dans ce réseau de solidarité de péché. Et on aimerait bien s'en débarrasser, mais on peut pas. On ne peut pas à cause de la limite que je vous ai donnée. Moi, je peux pardonner les offenses que j'ai subies, mais je peux pardonner les offenses faites aux autres. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais si on analyse bien la situation, si on voit bien les chaînes de solidarité et de péché, on s'aperçoit que pour que quelqu'un puisse pardonner tous les péchés, il faudrait que lui-même ait subi toutes les offenses. Qu'il se mette au bout de ces chaînes de solidarité de péché, qui soit le dernier, celui qui n'a péché contre personne et contre qui tous ont péché. Mais du coup, lui seul peut offrir le pardon. Et il peut l'offrir à tous avec quand même une seule condition, qui est la seule condition du pardon dans le christianisme. Quand un chrétien prie notre Père, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est-à-dire que la seule chose que le Christ nous demande pour recevoir son pardon, c'est que nous-mêmes, nous transmettions aux autres ce pardon. Mais pour se mettre dans cette position de dire « je te pardonne si tu pardonnes » et pour que ça transmette efficacement un pardon, légitime, il faut soi-même avoir subi en dernier ressort toutes les offenses. Pour ça, il faut être à la fois un homme qui est la victime ultime de tous les péchés, et il faut être Dieu, puisque les offenses sont aussi des offenses contre Dieu. Il faut être Dieu fait homme, mais un Dieu fait homme qui est dans la position du Christ sur la croix. L'ultime objet de toute la dérision de tout le monde, qui supporte le péché de tout le monde entier. Et c'est ça qui permet de se libérer du péché, de cette logique de péché qui nous enferme tous. Ok, c'est ça la logique du christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui... Bon, alors ça, vous ne le trouverez pas aussi bien expliqué par Marcel Gauchet, c'est pas un théologien. Mais j'explique bien, donc ça va. Bon, ne soyons pas ethnocentriques, soyons égocentriques. Merci, il y en a qui commencent à comprendre. Bon, alors, il faut que je fasse attention à l'heure. Oui, bon, c'est bon, il nous reste encore du temps. Bon, alors, voyez, le christianisme, dans sa logique profonde, il nous dit que toutes les religions jusqu'ici ont cherché à créer du lien entre les hommes. Ça, c'est vrai. Mais la spécificité du christianisme, c'est que là, il faut que ce soit Dieu qui vienne au-devant des hommes pour recréer du lien entre les hommes et avec Dieu. C'est-à-dire que la plupart des religions... Ce sont des religions ascensionnelles. Les hommes cherchent à s'élever vers Dieu. C'est très beau, c'est admirable. Les hommes cherchent à s'élever vers Dieu. C'est ça qui est beau dans toutes les religions. Après, ils y arrivent plus ou moins bien. Après, ils ont des méthodes plus ou moins louables. Quand pour s'élever vers Dieu, ils font des petits sacrifices. Pas méchant, ça va. S'ils commencent à sacrifier des êtres humains, ça a de la gueule. Mais on comprend que là, ça heurte notre pensée rationaliste philosophique, surtout si nous sommes remplis d'idées des Lumières. Donc là, il vaudrait peut-être mieux pas. Mais même dans les religions les plus atroces, il y a quand même cette idée qu'on va essayer de s'élever vers une dimension d'existence supérieure. N'allez pas en déduire que je vous invite à égorger vos enfants... ou des esclaves, n'importe qui. Mais il y a quand même voilà, cette dimension admirable. On cherche à s'élever. Mais le christianisme, c'est l'inverse. C'est pas l'homme qui cherche à s'élever, c'est Dieu qui s'abaisse. Et qui s'abaisse très, très bas. C'est une religion à l'envers. C'est une religion à l'envers. Et du coup, ça nous invite à repenser complètement le rapport entre religion et philosophie. Vous voyez, les philosophes, je vous l'ai dit, ils aiment bien se mettre un peu en surplomb avec leur système de valeurs rationaliste ou prétendument rationaliste. Et après, ils regardent les religions d'en haut et ils les classent plus ou moins haut selon qu'elles sont plus ou moins proches de leurs idées élevées et rationnelles ou prétendues telles. D'accord ? Non, mais là, on n'y est pas du tout. Non. Le philosophe qui se croit en surplomb, en fait, il est au même niveau que les religions qu'il évalue. Ou, il est peut-être pas au même niveau, il est peut-être un peu mieux. Moi, je suis prêt à dire qu'il est un peu mieux. Ça me dérange pas. Mais il n'est pas vu qu'en fait, il faut pas faire une distinction entre les religions d'une part et la philosophie de l'autre. Il faut faire une distinction entre toutes les doctrines, toutes les pensées qui cherchent à s'élever à partir d'un effort humain, que ce soit des philosophies ou des religions. Les religions, elles le font sur un mode collectif, avec des rites, avec du décorum, ça a de l'allure d'ailleurs. Puis on se transmet de père en fils. Parfois, ça se fige un peu. Donc, on sait plus très bien pourquoi on adore tel dieu de telle manière. On sait plus très bien pourquoi. Mais bon, on le fait. Les philosophes, eux aussi, cherchent à s'élever vers les hauteurs. Alors, mais ils le font sans le décorum, ils le font de manière individualiste, ils la jouent perso, vous voyez. Mais au fond, on est toujours dans cette logique d'êtres humains qui cherchent par eux-mêmes à répondre à leurs questions. Ils le recherchent collectivement ou individuellement, ils le recherchent en s'appuyant sur des traditions ou au contraire en critiquant les traditions, mais c'est toujours un effort humain pour s'élever. Et cet effort humain est appréciable. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de complètement différent qu'on trouve dans le judaïsme et dans le christianisme, où on dit, là, nous, on cherchait rien du tout. Il y a quelqu'un qui nous est tombé dessus. D'ailleurs, c'est marrant dans la Bible. Hein. Dans la Bible, vous n'avez jamais de personne qui se présente comme un grand penseur. Non, non. C'est Dieu qui arrive et qui convoque. Il dit à Abraham, va. On ne sait pas si Abraham, c'est quelqu'un qui a cherché Dieu, etc. Simplement, il y a un jour où Abraham, il entend une voix qui dit, va. Quitte ta famille. OK ? De même, le Christ, il appelle les apôtres. Il leur dit, suis-moi, je t'embarque. Ils n'ont rien demandé. Ce n'étaient pas des gens qui étaient dans une longue recherche méditative, voilà, qu'est-ce que Dieu ? Non. Ils ont été convoqués. Église, ça veut dire convocation. Église catholique, ça veut dire convocation universelle. Un catholique, c'est quelqu'un qui vous dit, il s'est passé un truc, nous, on ne demandait rien, et puis soudain, enfin soudain, non, ça s'est passé en fait en plusieurs siècles. D'accord ? Il y a quelqu'un qui s'est manifesté. Dieu, l'Esprit Saint, à travers des prophètes qui sont arrivés, ils portaient des slips en peau de bison, ils commençaient à engueuler les gens, etc. Bon, et puis à la fin, ces prophètes, de loin en loin, ont débouché sur quelqu'un qu'ils annonçaient, qu'on a appelé le Messie, le Christ, qui s'est avéré être Dieu fait homme dans des circonstances un peu étranges, puisqu'il s'est révélé comme Dieu fait homme dans sa mort puis sa résurrection. Mais on est dans une logique où c'est Dieu qui vient au-devant des hommes et qui s'abaisse. Et c'est pas du tout la même logique que celle des philosophies et des religions. D'où la situation très particulière du christianisme par rapport aux autres religions et aux philosophies. Donc ceci me conduit à quoi ? C'est que ce qui paraît ethnocentrique, particularisme dans le catholicisme, c'est tout ce qui est lié à l'originalité de cette démarche qui vient d'en haut. Le catholique, il se retrouve avec sur les bras quelque chose qu'il n'a pas construit lui-même. L'Église, c'est pas une invention. Il y a une part d'invention humaine. Si le pape porte des souliers rouges, enfin, il n'en porte plus, mais bon. C'est pas essentiel, c'est pas le fond du problème. L'Eucharistie, c'est pas une invention des apôtres, hein. Ils ont tous dit, on le tient de notre maître. Généralement, d'ailleurs, dans la doctrine catholique, ça commence par des rites dont on ne prétend pas cerner complètement la signification. On reçoit d'abord, on comprend ensuite. Ça signifie croire pour comprendre. Vous voyez ? Parce que justement, tout vient d'initiative première de Dieu. Et c'est seulement ensuite que les hommes reçoivent ce qu'ils ont reçu. Alors, du même coup, quel va être le rapport de ce catholicisme qui prétend avoir reçu une vérité qu'il n'a pas inventée ? Ben, le rôle de l'Église catholique, c'est de l'annoncer, cette vérité. C'est de la diffuser. Parce que ça ne lui appartient pas, parce que ce n'est pas notre invention, parce qu'on n'a pas de copyright dessus. Donc cette vérité, elle appartient à ceux qui ne l'ont pas encore reçue, prioritairement. Attention, le fait d'avoir reçu cette vérité d'en haut, ça n'annule pas la qualité, la valeur de ce que les hommes ont inventé. Il y a beaucoup de choses respectables dans les religions humaines, comme dans les philosophies. Simplement, il n'y a pas ce qui vient directement de Dieu. Il y a ce que les hommes ont découvert par leurs propres efforts. Il y a des choses très louables dans les autres religions. C'est pour ça que je vous ai photocopié des passages d'un texte très important, qui est la déclaration Nostra Aetate, qui est un document officiel de l'Église catholique, qui expose la position de l'Église par rapport aux autres religions. Elle dit, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'elles enseignent, mais, donc l'Église ne rejette, donc c'est le troisième paragraphe, ça doit être page 2. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. D'accord ? Toutefois, un peu plus loin, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses. dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses par le sacrifice du Christ, sa mort et sa résurrection. Vous voyez ? C'est ça que l'Église est tenue d'annoncer. Et cette mort et cette résurrection du Christ, donc elle l'annonce, elle va avoir une doctrine, elle invite à en tenir compte dans sa vie, ça change la vie de penser ça. On vit plus de la même manière quand on sait qu'on est promis à rencontrer Dieu et à le contempler pour l'éternité. Quand même des choses qu'on prend plus au sérieux. Et puis, aussi, on va accorder la plus grande importance à ce qui nous relie, je dirais de manière quasi charnelle, à cet événement. Ça va être la vie sacramentelle et la liturgie. Parce que cette mort et cette résurrection du Christ, ce n'est pas simplement un événement dans le passé. C'est quelque chose qui a encore une effectivité au présent, par exemple, dans la célébration de l'Eucharistie, dans la messe. Donc on va à la messe le dimanche. Voilà. Et donc le catholique, il respectera les philosophies, les religions, elles ont trouvé des choses. Parfois elles se trompent. Il y a des trucs qu'on peut difficilement admettre. J'avoue que les sacrifices humains chez les Aztèques, ça passe pas très bien. D'accord, les sacrifices humains, là, on peut peut-être s'arrêter, là. Bon. Le sacrifice des poulets, bon. On va pas trop rentrer là-dedans. De toute façon, il y a plus grand monde qui le fait, à part les satanistes. Et bon. Bien. Mais, la question, toutes les religions se valent-elles, vous voyez? Dans une perspective catholique, la plupart des religions, et presque toutes, ont de la valeur. De même que la plupart des philosophies, toutes ont de la valeur. C'est certain. Qu'elles soient toutes vraies, non, parce qu'il y a des contradictions, de toute façon. Il y a des choses fausses, on peut se tromper. Est-ce que les catholiques ont toujours raison en tout? Certainement pas, parce que les catholiques, comme tout le monde, parfois soutiennent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont reçu. Mais ce qui fait la valeur du catholicisme, c'est qu'il est dépositaire d'une révélation tout à fait particulière. Et c'est pour ça que, dans le cadre de l'édification d'une civilisation universelle, il ne doit surtout pas renoncer à affirmer ce qui fait la singularité de sa religion. Parce que c'est en cela, en affirmant cette singularité, qu'il rend le plus grand service au monde. Je vous remercie de votre attention.